13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui, c'est Mehdi Metlat. Bienvenue Mehdi.
Bonjour.
Journaliste, vous revenez avec un livre sur ce que la presse a appelé l'affaire Metlat. Votre livre s'appelle Autopsie chez Grasset. Dans quel sens vous voulez qu'on prenne le mot autopsie ?
Je trouvais que le sens le plus intéressant était celui de qui avait écrit sur la page Wikipédia, finalement, vous voyez, on ne faut pas aller très très loin, du mot autopsia en grec, qui voulait dire vue de soi-même. Et je trouvais que c'était extrêmement juste, une vue de soi-même.
Parce que sinon l'autopsie, c'est post-mortem.
Oui, sinon on ouvre un cadavre et c'est peut-être moins intéressant comme exercice, là, pour le coup.
À quel genre votre livre appartient-il ?
J'ai l'impression que c'est un récit, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose que j'ai voulu extrêmement intime dès le début, quelque chose à la première personne. Et comme ça, dans un flot ininterrompu finalement, c'est ça que je voulais raconter avec ce rythme-là. Donc je dirais récit, ouais.
Un livre de littérature pour de vrai, comme dirait votre mère, même si elle ne lira pas le livre.
Bah, finalement, elle l'a lu. Ah. Voyez, elle a dit qu'elle le lirait pas parce que voilà, c'est une histoire qui l'a marqué, qui lui a fait aussi pas mal de blessures, enfin qui l'a blessé à certains endroits, et elle voulait se protéger totalement de ça, elle voulait se protéger de ce livre aussi qui lui apparaissait peut-être comme une ombre, comme quelque chose de dur pour elle, et finalement elle l'a lu et elle l'a trouvé vrai, donc c'est un pari réussi à cet endroit déjà.
Vous êtes suicidé socialement à coup de tweet. Si vous deviez résumer ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous dites ?
C'est compliqué de résumer.
Qu'est-ce qui vous est arrivé en février 2017, pensez-vous ?
En fait, je faisais la promotion d'un livre avec Badroudine, et qui était mon second roman, qui s'appelait Minute. Des utilisateurs de Twitter ont été fouillés finalement dans mes tweets que j'avais écrits depuis l'âge de 19 ans et ont été fouillés par mots-clés, ont recherché des mots pour voir si ces mots-là apparaissaient dans mes tweets, et effectivement sous pseudonyme que j'avais, qui s'appelait Marcelin Deschamps, il y avait des tweets à la fois d'un humour extrême, provoquant, etc. Et puis aussi des tweets absolument ignobles qu'on pourrait juger d'une extrême violence, et que j'avais écrit aussi dans une forme de provocation, de colère, etc., etc.
On reviendra là-dessus, mais pour comprendre, vous êtes invité donc à cette émission sur France 5, la Grande Librairie.
C'est ça.
Ça a remplacé apostrophe, on va dire, dans le cœur des gens. C'est The Émission Littéraire Française.
Oui, il paraît.
Ouais, aujourd'hui. Enfin, donc, voilà. Il n'y a plus beaucoup des émissions où ça parle de littérature hein, à la télévision. Et là, subitement, vos tweets ressurgissent. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui comment ils avaient ressurgi, par exemple ?
Oui, ils ont ressurgi parce que deux utilisatrices de Twitter, qui étaient elles-mêmes affiliées au Printemps Républicain, qui est une sorte de collectif comme ça, de laïcards, les ont recherchées, en fait, tout simplement. Elles ont recherché dans mes tweets des mots-clés.
Ce jour-là.
Ouais. Parce que je pense que le moment, comme elles disent, s'y prêtait. Il a fait la Grande Librairie. Et ben alors là, on va pas le laisser passer cette fois. Et ça va trop loin, quoi. Cette imposture de Mehdi Metlat qui peut aller présenter ses livres à la télévision, etc. Ça va trop loin. Alors on va chercher ses tweets et on va le mettre face à ses ambiguïtés, à ses problèmes, à ses horreurs, quoi.
Ces tweets, vous les écrivez sur un compte Twitter sous le nom de Marcelin Deschamps. Alors, en apprenant le livre, que Marcelin, c'est le prénom du fils pas encore né de d'une femme qui a beaucoup compté dans votre vie.
Oui, de ma prof d'histoire des arts.
Voilà. Marcelin.
Marcelin, c'est étrange comme prénom.
Ça fait pas des années 2000, si vous voulez ce que je veux dire.
Oui, c'est ça. C'est un nom du passé, ouais.
Ouais. Deschamps, bon, alors celle-là aussi, c'est pour l'histoire de l'art, hein, évidemment.
Oui, il y avait une référence forcément à Marcel Duchamp, qui est un artiste qui, du coup, m'a inspiré à cet endroit de l'histoire de l'art au lycée, et c'est un artiste important, ouais.
Et vous expliquez comment vous arrivez à... Enfin, vous expliquez d'abord comment Internet arrive chez vous.
Internet arrive chez moi d'une manière assez précaire, c'est-à-dire que on essaye de ma mère essaye d'ouvrir un compte, mais finalement elle peut pas ouvrir une ligne téléphonique, elle a pas de compte bancaire. Enfin, c'était un peu, vous voyez, c'était un peu comme ça, c'était un peu arrangé, quoi. C'était comme on dit, de briques, de broc, on se débrouillait. Et ma tante avait récupéré une unité centrale. Et puis finalement, ça arrive. Et je raconte ce moment parce que pour moi, c'est un moment fondateur dans ma vie où Internet arrive chez moi. Internet, c'est finalement la porte ouverte, quoi. C'est quelque chose où t'es plus tout seul.
Alors, Internet arrive. Twitter existe. Alors, Twitter existe déjà, même pas quand vous avez Internet.
Non, pas du tout. Ça n'existe pas. Et puis, de toute manière, mon compte Twitter, je l'ai ouvert quand j'avais 18 ans. Donc, quand même, ça devait être 3-4, enfin, peut-être 4 ans après avoir eu Internet.
Bon, vous avez commencé à écrire sous ce pseudo, donc avant Twitter, quand même. Quelle était votre idée de départ ?
Bah, l'idée, c'était que ma mère m'avait dit, il faut absolument pas mettre notre nom sur Internet, faut se protéger, on sait pas ce que c'est, Internet, ça fait peur, etc. Et donc, j'avais trouvé ce pseudo-là, qui était une sorte de personnage que j'avais créé, qui était hyper provoque, hyper léger aussi à certains endroits, voilà, qui apportait une forme de légèreté, d'humour noir, d'humour un peu outrancier, etc. Et j'avais commencé à écrire effectivement sur Facebook au départ des petites choses.
Un faux journal intime.
Un faux journal intime que j'inventais, que un peu pour choquer un peu mes potes du lycée, etc. Et puis j'avais fait aussi un blog, un skyblog. Vous voyez, c'était l'époque du passé, quoi.
Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'était il y a super longtemps, mais c'était il y a pas très longtemps. Pourquoi à l'époque et c'est là où votre mère peut-être a le nez, vous ne signez pas de votre vrai nom.
Justement pour ça, parce qu'elle me dit, faut pas mettre notre nom sur Internet, on sait pas ce que c'est, on sait pas comment ça va nous revenir à la gueule. Et bon, finalement, elle avait raison. Elle était hyper.
Oui, elle avait
curseur.
Voilà, le bon sens.
Oui, elle avait pas tort. Et finalement, c'est pour ça que j'ai pas fait apparaître mon nom. Je voulais pas que mon nom apparaisse sur Internet ou qu'il soit utilisé, etc. Bon, le futur me contradira, mais c'était intéressant comme première démarche.
Ouais. Et Marcelin devient donc votre double sur la toile. Hein.
Ouais, j'avais dit double, mais c'est pas le mot juste. C'est finalement un pseudo. C'est moi, mais c'est sous un pseudo. Comme des auteurs écriraient, voilà, comme Romain Gary a écrit sous pseudo, comme David Cronenberg a des pseudos au cinéma. Enfin, c'est un pseudo, mais c'est moi.
Les autres ont des pseudos, mais lui finalement, parce qu'à un moment donné, vous dites, il est devenu mon double maléfique d'une certaine façon.
Oui, mais ça j'ai fait l'erreur de dire ça. J'avais dit ça quand cette histoire est arrivée, parce que finalement, j'avais pas grand chose à dire. Mais quand il m'a fallu un an et demi pour écrire justement le livre dont on parle, j'ai compris que j'avais fait l'erreur de dire double maléfique. C'est pas un mot juste. C'est un mot qui finalement m'a permis de me cacher derrière quelque chose. Et c'est pas ce que je voulais. Je veux pas me cacher derrière une raison ou derrière une excuse. Non, je pense qu'il faut assumer. Il faut assumer d'avoir écrit ces tweets. Il faut assumer l'erreur. Et finalement, effectivement, ce double maléfique, je l'ai balayé.
Et c'est important finalement dans la démarche que vous entreprenez d'avoir les mots justes, parce que c'est vrai que parfois si les mots restent, et donc finalement il faut être précis. Par exemple dans l'excuse, voilà, il faut y aller franco.
Faut y aller franco parce que moi je pense, enfin ça c'est mon sentiment, c'est que à partir du moment où on crée une douleur, on s'excuse. À partir du moment où on se retrouve face à la douleur, une douleur réelle, une douleur sincère, on s'excuse. Donc c'est ce qui a été mon cas depuis ce premier jour et ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
Vous avez vu des gens à qui vous avez fait mal, par exemple, et qui vous l'ont dit physiquement et qui ont témoigné.
Oui. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui se sont retrouvés face à cette histoire dans la presse et qui lisent ça. Effectivement, c'est dur quand on comprend pas. quand on sait même pas ce que c'est que Twitter, quand on sait même pas ce que c'est que d'avoir un pseudo sur Internet, etc. On est effectivement blessé. On ressent une forme de douleur très profonde. On se dit mais comment un mec comme ça peut écrire des choses pareilles?
Est-ce que aujourd'hui vous arrivez à expliquer aux gens précisément ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le présent d'Internet. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe au quotidien. C'est, comme je disais, des actes de provocation, d'extrême violence, des actes aussi, des tweets, comme je dis, bêtes et méchants, des tweets d'humour, des tweets qui tapent sur tout le monde. C'est la réalité de Twitter aujourd'hui. Alors moi, je le faisais en forme de réaction au milieu dans lequel j'arrivais, donc le milieu culturel, intellectuel, de la radio, de la littérature, de l'édition, etc. Mais effectivement, c'est la réalité d'Internet, c'est la réalité de Twitter. Aujourd'hui, on ouvrirait là, à cette heure-ci, Twitter, on regarderait ce qui s'y passe, il s'y passe des choses comme ça.
Mais il a évolué, votre Marcelin, au cours des années. Au début, il était vachard.
Ah non, il a toujours été dans cette forme-là. C'est-à-dire que il y a 53 000 tweets. Il faut imaginer cette masse-là. Alors pour moi, pour quelqu'un de 25 ans, qui à l'époque en avait 19, 20, 21, c'est pas énorme. 53 000 tweets, c'est une utilisation normale pour nous. Vous voyez, ça paraît énorme. Mais...
Ouais, vous voyez, moi je m'en rends pas compte.
Voilà, mais pour nous c'est pas extraordinaire. Et cette masse-là de tweets, il faut la lire. C'est ça que j'ai questionné aussi dans ce livre. C'est...
Mais moi, je les ai lus, du coup, vos tweets.
Vous avez lu ce qu'on a publié.
Ouais, j'en ai lu d'autres. J'ai pas lu l'intégralité du fichier.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on se retrouve face à ce fichier-là, que j'ai, et que j'ai lu plusieurs fois depuis que cette histoire est arrivée, c'était intéressant pour moi de me retrouver face à ces tweets et de comprendre le ton. C'est un ton. C'est un ton. Alors certes, il y en a qui sont extrêmement graves, qui sont ignobles, comme on dit, des formes comme ça de tweets extrêmement violents et tout ça. Mais les autres sont tout à fait dans une forme d'humour absolument, comme je dis, bête et méchante, une forme d'humour comme ça totalement dépouillée, presque incompréhensible parce que ça part dans tous les sens. Et ceux-là aussi appartiennent au ton de ce compte Twitter.
Alors, qu'est-ce que le fait de lire l'intégralité des tweets nous aide à comprendre finalement?
Le ton. De se dire, ah mais en fait...
C'est-à-dire que votre ton a été le même pour tout le monde.
Tout le monde. Tout le monde. Moi, c'était un conte, presque on pourrait dire un conte absolument parodique, qui était dans une forme d'outrance en fait. Il était dans l'outrance ce conte-là. Et quand on comprend le ton de l'outrance... Alors peut-être les choses redeviennent un peu plus claires. Par contre, quand on en sort 5, qui sont extra 5, 10, comme ça a été le cas, et qui sont eux extrêmement graves, qui sont eux extrêmement violents, là on comprend pas le ton. Là on dit le mec est taré, le mec est fou, le mec est dangereux, le mec est...
On n'a pas dit que ça. Vous étiez antisémite, homophobe, on n'a pas dit que fou.
Parce que le caractère de ces 10 tweets-là qui ont été ressortis était un caractère antisémite et homophobe pour la plupart. Mais on n'a pas ressorti les autres.
Mais si on avait ressorti les autres, est-ce que ça aurait aidé à mieux comprendre les tweets antisémites, homophobes?
Moi, je pense que la douleur de chacun appartient à chacun. Enfin, voilà, je veux pas faire de grille de lecture par rapport à la douleur de chacun. Simplement, je dis peut-être que ça aurait pu éclaircir le ton de ce conte-là et de se dire ah, mais en fait. Bon, il a dit ça, mais il a aussi dit ça. Donc, en fait, il tapait sur tout et sur tout le monde. Il était juste con, en fait, ce mec-là.
Bon, alors, on l'a invité ce matin. Vous êtes l'invité du Book Club jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant.
Mehdi Meklat est l'invité du Book Club aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'Autopsie aux éditions Grasset. C'est votre version des faits sur ce qu'on appelait l'affaire Meklat. En lisant votre livre, je me suis demandé si à un moment donné, vous avez souffert de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ou est-ce que à un moment donné, à France Inter notamment...
Alors le syndrome de l'imposteur, ça je ne sais pas.
Le syndrome de l'imposteur, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'autodidacte en fait.
Alors autodidacte... autodidacte, ça c'est sûr, parce que la première fois où j'ai fait de la radio, je savais pas du tout utiliser un micro. La première fois où j'ai monté, je savais pas monter. La première fois, on nous l'a appris. On nous l'a appris comme ça sur le tard, sur le terrain. Et ça, effectivement, c'était passionnant comme travail. Après, imposteur, je pense pas, parce que le mot me paraît dur, me paraît violent.
Non. Penchez-vous sur la question. C'est finalement quand on se retrouve un endroit où on doit faire énormément ses preuves pour prouver aux autres qu'on est au niveau, on peut être victime de ce qu'on appelle un syndrome de l'imposteur.
Ce qui est sûr, je dirais plus un sentiment parfois d'illégitimité, d'être à une place.
C'est exactement ça. C'est les autres qui vous renvoient le fait de pas être à votre place.
Les autres et vous-même, parce que finalement vous vous dites, est-ce que je suis à ma place à force? Qu'on vous fait comprendre que non, vous vous posez la question, vous voyez. Vous vous dites, mais alors, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce qu'on m'entend pour ce que je dis ou on m'entend pour ce que je suis? Ça, c'est une question qui a traversé aussi mon travail à la radio ou même parfois dans l'édition ou dans le journalisme. Est-ce qu'on entend ce que je dis ou est-ce qu'on regarde qui je suis?
Et par exemple, on vous appelait les kids avec votre acolyte.
Oui, ça c'était un nom que Pascal avait trouvé.
Les kids, mais vous étiez ou les kids, ou les petits, ou les.
Alors les kids, c'était quelque chose de très très signifiant pour nous. Il y avait quelque chose de très beau, de l'ordre de la naïveté, qui était assez joli comme ça. Par contre, je raconte une scène à un moment avec le directeur de France Inter, Philippe Val, qui disait effectivement, je les connais les petits, et que c'était une phrase comme ça qui est revenue sans cesse dans ma tête, parce que finalement je sentais un mépris. Je sentais un mépris à cet endroit. De dire, c'est eux les petits, donc quand on est les petits, on n'est pas les grands, on n'est pas avec les grands, on est les autres, voyez. Et ça, ce sentiment d'être l'autre, était parfois présent.
C'est-à-dire que là, vous alliez dans son bureau pour, en plus pour parler business, hein, c'était pour le présent, c'était pour lui proposer une émission d'été, donc c'était pas.
Mais c'était.
On n'était pas allé voir papa.
Non.
Alors, on était allé voir son boss.
Mais souvent, vous savez, il y a une forme de condescendance comme ça, chez les gens de pouvoir. Il y a une forme de condescendance, ou en tout cas, de mépris, comme ça, de pouvoir appeler les gens les petits devant eux. C'est quand même quelque chose, c'est un acte, je trouve, fort, presque héroïque, hein, de pouvoir dire ça devant quelqu'un.
Vous avez donc ouvert ce compte Twitter sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps, et si c'était pas votre double maléfique, expression que vous avez réfutée tout à l'heure, vous y avez trouvé quand même un espace où vous avez pu transgresser.
Oui, mais c'était de l'ordre de la transgression. Le mot est absolument juste. C'est-à-dire que ce compte Twitter, c'était pas un exercice journalistique, c'était un exercice de la transgression, de la provocation.
Donc vous vous retrouvez sur Twitter à un moment donné où il n'y a pas grand monde, hein, à l'époque c'était pas très fréquenté, mais vous avez quand même cette envie d'être suivi.
Bah,
d'être
oui.
sur Twitter pour avoir des followers, et pour avoir des followers, vous appliquez des bonnes méthodes marketing.
Mais c'est con, hein. C'est con, c'est très con. Mais prenez aujourd'hui la question des réseaux sociaux. On est content d'avoir des likes sur Instagram. Enfin, c'est ridicule quand on y pense. Mais on appartient à ça. On appartient à cette époque-là. Et sur Twitter, l'exercice, c'est d'avoir des followers, donc des gens qui vous suivent, de plus en plus. Alors, quand on en a 10, on est content. Mais quand on en a 100, c'est encore mieux. Et puis quand on en a 1000, c'est la gloire.
Enfin, à l'époque, déjà 1000, c'était beaucoup.
Voilà. Et finalement, il faut entrer dans cette course. C'est une course absolument effrénée. Il faut trouver son ton. Il faut trouver l'outrance. Et moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça pour attirer les gens, pour que les gens ils soient un peu choqués dans leur petit confort, vous voyez, et c'était ça en fait l'exercice. Alors c'est un exercice périlleux, dangereux, la preuve.
mais ce qui veut dire, c'est que dans la transgression, on n'en fait jamais moins. C'est-à-dire qu'on va toujours plus loin.
Bah oui, bah évidemment, parce que quand on fait quelque chose qui choque un peu, on veut faire un peu plus. Finalement, je cite parfois des séries de tweets que je faisais en quelques minutes comme ça, en faisant plusieurs tweets en une minute ou deux, on veut aller toujours un peu plus loin. Et puis quand on arrive au bout, on a fait le pire. Et c'est un exercice, comme je disais, périlleux, dangereux, etc. Et j'en suis même la preuve aujourd'hui. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est un exercice absolument quotidien sur Twitter. L'exercice de la provoque, l'exercice de l'outrance, c'est un exercice quotidien.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, la partie que vous en avez eue, vous.
Mais j'étais dans un exercice quotidien de cette utilisation, de cette outrance.
Qui savait qui vous étiez ? Par exemple, qui savait que vous étiez Marcel Deschamps ?
Marcelin,
pardon.
J'ai envie de dire, les gens de ce milieu intellectuel, etc., étaient au courant, parce que moi, j'ai jamais caché ce compte Twitter. On m'en parlait dans les couloirs de la radio.
Donc les gens avec qui vous travaillez, les journalistes,
oui,
les gens des médias savaient.
Oui, parce que effectivement, les interviews que je donnais avec Badrou pour notre travail, etc. À chaque fois, on me parlait de ce compte Twitter. À chaque fois, les gens ils me disaient, mais alors parlez-nous de votre compte Twitter. Pourquoi vous faites ça? Parfois, quand même, vous allez un peu loin. Ou sinon, on me disait, mais c'est vraiment très drôle. Vous trouvez où cette inspiration? Enfin voilà. Donc c'était connu. De ce milieu-là. Donc, je ne dis pas que tout le monde savait, mais en tout cas, les gens de ce milieu, qui sont les journalistes et tout ça, la plupart d'ailleurs me suivaient. Donc, finalement, c'était quelque chose de...
Donc, ils vous suivaient parce qu'on sait que les gens vous suivent. Donc, c'est transparent, les gens qui vous suivent.
Mais finalement, c'est transparent. Mais comme moi, j'étais dans un exercice aussi de transparence, moi, j'ai jamais caché que j'étais derrière ce compte Twitter.
Est-ce que sur les tweets homophobes, antisémites, à un moment donné, les gens venaient vous voir dans le couloir et vous disaient, Mehdi, tu vas trop loin. Est-ce qu'il y en a qui vous l'ont dit ?
Sur un tweet, à un moment, que j'avais fait, qui était totalement ridicule, mais homophobe, effectivement, on m'avait dit, franchement, regarde, ça met la lumière sur un truc que t'es pas, c'est con d'écrire ça. Mais bon, voilà.
Une réaction.
Oui, des petites réactions comme ça, mais jamais quelque chose de très grave.
Mais est-ce que quelqu'un vous a dit à un moment donné, arrête-toi, tu vois. Là, c'est vraiment.
Oui, il y avait.
Ça va te nuire, tu vois, tu vas te griller pour rien.
Oui, il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui s'appelle Mohamed Hamidi, qui est un réalisateur et qui a fondé qui a dirigé le Bondy Blog pendant longtemps, qui m'avait dit, moi, Mehdi, franchement.
Avec Nordine Labilich.
Avec Nordine, exactement. M'avait dit, Mehdi, c'est ridicule, arrête ce truc sur Twitter, c'est con, ça te sert à rien en plus.
Mais il vous avait dit pourquoi c'était con?
C'est con parce que tout mon travail il est à l'inverse de ce compte Twitter et que finalement un jour on peut me le ressortir et moi, vous voyez, à 22 ans on se dit non mais ça va, non, mais les gens ils savent.
Parce que ce que je veux savoir c'est, est-ce que quelqu'un vous a dit tu vas apparaître pour un homophobe, tu vas apparaître pour un antisémite, est-ce que quelqu'un vous l'a dit ça?
Pas vraiment. Non, parce que en fait, c'était le ton du compte et on parlait du ton en général. On disait, tes tweets, c'est vraiment n'importe quoi. Alors soit c'était très drôle, soit c'était très, c'était absolument ridicule. Et ça, effectivement, on me faisait parfois la réflexion, mais voilà.
J'aurais bien aimé qu'on écoute une des chansons que vous aimez le plus de John Cage. Ça s'appelle 4 minutes 33. Mais c'est pas très radiophonique.
Ah ben non, ça c'est un peu compliqué.
C'est compliqué. Bon, regardez-la sur Internet, si vous voulez. Je préfère qu'on écoute Karine Anne sur Beurre FM, je veux dire, c'est trash. Hein. La chanson s'appelle My Name is Trouble. En quoi est-ce que cette chanson et ce morceau vous a-t-il défini à un moment donné, ou peut-être continue-t-il à vous définir ?
Alors déjà, c'est une chanson qui me touche énormément.
Vous dites, elle m'a chanté sans le savoir.
Oui, parce que, alors déjà, je trouve que, au vu de cette histoire, My Name is Trouble, c'est un titre qui peut être fort. D'ailleurs, j'avais même pensé appeler le livre comme ça. Et effectivement, il y a des moments de suspension dans cette chanson qui me paraissent. Alors là, c'est extrêmement intime et c'est très étrange de dire ça à la radio, mais qui me transporte. Il y a quelque chose de l'ordre de la drogue dure, quoi, dans un...
Mais comme quoi, alors, par exemple?
Non, mais il y a des moments de suspension.
Passage, séquence, émotion. C'est que dans une émission de radio, il faut toujours un moment de radio, comme on dit. Comme elle vous disait, Pascal Clark.
Un moment de radio. Non, mais c'est une musique qui m'électrise. C'est pas mal, ça, comme mot.
C'est bien, mais on sait pas pourquoi.
Parce que, non, mais parce que, voilà, parce que tout simplement...
Ça vous parle, mais est-ce qu'il y a une phrase qui vous parle particulièrement dans la chanson ?
Non, c'est des moments, c'est des moments. Il y a une mélodie à deux passages très précisément de cette chanson qui me transporte et que je trouve absolument sublime.
Karine Anne, pour la première fois au monde, ce bref.
Reviens dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Midi Mekat est l'invité du Book Club. Vous lirez Autopsie, son livre, aux éditions Grasset. Vous revenez sur l'affaire. L'affaire où vous êtes suicidé grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux. En tout cas, en utilisant les réseaux sociaux. Votre livre explique un petit peu aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux et explique aussi pourquoi les réseaux sociaux sont un danger. Vous êtes né avec, faites partie de la génération qui finalement est née avec les réseaux sociaux. Au départ, vous saviez pas comment fonctionnait Twitter, mais vous avez appris comment ça fonctionnait quand même.
Bah, en fait, on n'apprend pas. Ça s'apprend pas. Ça se vit.
Ça se vit, oui. Bon, mais donc, vous avez compris quand même à un moment donné comment il fallait faire pour avoir de plus en plus de followers. Qu'est-ce qu'il fallait écrire comme accroche pour que ça marche, quoi.
Oui, oui. Après, c'est comme je le dis, et c'est ça qui est intéressant comme question que je soulève dans le livre et comme interrogation. C'est justement, personne n'a appris. Tout le monde a appris en faisant. Tout le monde l'a vécu, en fait. Tout le monde le vit. Et ça, je trouve intéressant comme questionnement, parce que la question de l'éducation à ces réseaux, la question de l'éducation à ces pratiques est absolument presque inexistante. Donc moi, effectivement, j'ai appris en le faisant. Donc j'ai appris en tweetant, en fait. Sauf que c'est compliqué.
Comme on a appris, le métier n'existait pas, hein, parce que c'était qu'un community manager, parce que les règles sont arrivées au moment de l'application. Mais est-ce que ça excuse ce que vous avez écrit ?
Ça n'excuse pas. Je dis pas, moi, je...
Non, c'est juste pour comprendre.
Non, ça n'excuse pas. Je dis simplement, moi, il m'est arrivé ça. Moi, j'ai écrit de la merde. Moi, j'assume d'avoir fait cette connerie. Pour autant, j'espère... qu'écrire, que réfléchir à cette question-là puisse servir, puisse prendre cette histoire comme quelque chose qui s'est passé et qui devrait qu'on devrait éviter, qui ne reviendra plus, qui n'existera plus.
Avec ces tweets que vous avez écrits, donc vous avez été taxé d'antisémite, d'homophobe et de pas mal de choses. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous écoutent que vous n'êtes pas ça ?
Mais on peut pas l'expliquer. On peut pas expliquer qu'on n'est pas antisémite. On peut pas expliquer qu'on n'est pas homophobe. Enfin, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je dis pas. Vous m'entendrez jamais dire. J'ai un ami juif. Voyez, on n'est pas dans cette logique. Donc, à partir du moment où on ne trouve, on peut pas te trouver de fausses excuses ou de faux. C'est pas faux en fait. Donc, c'est très compliqué. Quand on est sincère.
Donc l'exercice que vous faites est quand même compliqué. Vous rendez compte que finalement.
Mais comment prouver à quelqu'un qu'on ne l'est pas ? Comment le prouver ? À part en disant on ne l'est pas. Après, certaines personnes le croiront, d'autres non. C'est l'exercice, c'est le jeu. Mais effectivement, il est quasiment impossible. C'est un exercice quasiment impossible de dire je ne suis pas parce que. Alors oui, je ne le suis pas parce que j' ai écrit des articles sur ces questions-là, parce que je suis sensible à cette question.
Ça, vous le dites dans le livre, que finalement, oui, quand vous étiez au Bondy Blog, votre travail sur France Inter, c'était pas ça.
Bien sûr, c'est et puis j'ai parlé de ces questions-là, j'ai été dans les associations, j'ai rencontré les militants, j'ai rencontré les, effectivement. Mais c'est très compliqué de se justifier de quelque chose qu'on n'est pas.
Qui se justifie se crucifie.
Ah, pas mal.
Comme on dit souvent. Alors, parmi les gens qui ont porté plainte, alors oui, parce que vous racontez ça, il y a Isabelle Balkany. Donc un jour, quand même, vous êtes convoqué suite à un tweet. Mais là, c'est parce que vous aviez mis la photo d'Isabelle Balkany comme profil.
C'est aussi peut-être la première fois qu'on parle d'Isabelle Balkany sur Beurre FM, non ?
Depuis longtemps, en tout cas. C'est vrai.
Entre Karenan et Isabelle Balkany
Je sais pas, Marcelin aurait dit qu'elle repose en paix.
Mais Marcelin est mort.
Voilà.
Mais en tout cas, pour ce qui est de
et une ville. Et une ville. Alors là, c'est la direction de votre antenne de France Inter qui, à un moment donné, vous rappelle à l'ordre. C'est vous partez faire un extérieur dans une ville.
À Besançon.
Et vous tweetez. Et Marcelin tweet.
Oui. Et puis il y avait ce tweet. Je viens d'arriver dans cette ville. Je crois que c'est Besançon. Je comprends pas pourquoi tout le monde s'est pas suicidé ici. Enfin, voilà. C'était ce niveau de conneries, quoi. Et de provoque et d'esprit un peu comme ça un peu ironique et en même temps un humour un peu noir. Bon, là ils voient ça France Inter, ils me disent bon là faut le supprimer parce que déjà que France Inter en province on a une image un peu de bobo et tout ça, faut éviter de donner les armes quoi. Donc je l'ai supprimé et puis après j'en ai refait un quoi. Enfin, c'était l'exercice, donc forcément.
Vous en avez fait plein, oui, dans la série.
Oui.
Ouais. En tout cas, quelques mois avant que n'éclate l'affaire, vous décidez de vous, de reprendre votre identité. Donc, de redonner à votre compte Twitter votre nom. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, l'exercice de ce ton-là dont je parle depuis le début de l'émission, un ton outrancier, etc., ne m'intéressait plus. En fait, je voulais plus être dans cet exercice-là. J'avais atteint 10 000 followers. Là, franchement, la classe. Hein.
C'est quoi, c'est le tweet d'or? je m'en rends pas compte.
Non, mais c'est horrible, mais c'est-à-dire que cette course aux followers existe réellement.
J'ai un copain qui m'a dit, tu sais que maintenant je suis, je sais pas quoi, d'argent ou d'or, j'ai droit à un studio tant d'heures par semaine.
Ah oui.
Sur ma chaîne. Enfin, ouais, c'est comme
ouais,
ça.
Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est fou. Et puis sur YouTube, c'est pareil.
Et c'était pas beaucoup, vous voyez. Ouais.
Oui, alors, quand on est de l'extérieur, ça paraît rien, mais pour nous, c'était pas mal. Et, donc, en fait, j'arrive à atteindre.
À 50 000, ouais.
Non, 10 000.
10 000.
C'est pas mal, déjà.
J'ai aucune idée.
Non, et donc, j'arrive à atteindre ça, et puis de toute manière, le ton ne me plaisait plus. Je travaillais, et puis j'avais pas mal d'autres choses à faire. J'avais grandi, en fait, ça me faisait plus marrer, quoi. Et donc, j'ai mis mon nom, Mehdi Mekla, donc à cet endroit-là. Et donc, l'ensemble des tweets que j'avais écrits, des 53 000, du coup, étaient signés par mon nom réel cette fois-ci. Mmh. Alors là, inconsciemment, c'est un acte intéressant. Mmh.
Est-ce que vous pensiez réellement que qu'il n'y avait pas de mémoire, que Twitter n'avait pas de mémoire, que tout ce que vous aviez fait avant allait être effacé?
Il faut juste comprendre ce que c'est que tweeter. Tweeter, c'est sur l'instant, comme je pourrais le faire là à l'instant. Alors j'ai plus de compte Twitter, mais comme j'aurais pu le faire à cet instant-là, précisément. Mais moi, je l'aurais fait face à vous, et je l'aurais aussitôt oublié. Enfin, ça aurait été quelque chose pour moi déjà du passé. Quelque chose qu'on écrit sur Internet est quelque chose déjà du passé. Donc, et c'est très étonnant, parce que finalement, ça n'est jamais dans le passé, c'est toujours dans le présent. Internet est toujours dans le présent. C'est quelque chose qui existe pour toujours. Et c'est ça, finalement, que moi, j'avais pas acquis. Moi, je m'étais dit...
On peut les effacer, ses propres tweets. Hein.
On peut les effacer, évidemment. On peut même effacer son compte, on peut, bien sûr. Mais effectivement, quand on écrit un tweet, ça nous fait marrer peut-être à l'instant, mais deux secondes après, on l'a oublié, alors qu'il existe encore, et il existe pour toujours.
Quel sens vous donnez au mot fidélité aujourd'hui?
Fidélité, c'est une notion qui est importante, c'est un mot important, c'est un mot qui définit quelque chose de l'amour, je pense, de l'amour, de l'amour, j'ai envie de dire, d'un amour, d'un contrat moral, quoi, quelque chose comme ça, qui existe et qui va contre le monde. Voilà, je dirais que le mot fidélité, c'est quelque chose qui va contre le monde.
Est-ce que, à partir du moment où défaire l'affaire, où ça commence, que la machine se met en marche, que le système se met en marche, qu'il a décidé de vous exclure du système, finalement, c'est de vous dégager. À ce moment-là, est-ce que vous avez compté vos amis? Et est-ce que vous avez été surpris par des gens qui se sont manifestés auxquels vous vous attendiez pas?
Oui, on compte pas... on se dit que... D'abord que la faute nous revient, mais après, quand on se relève de ça, on essaie de regarder un peu autour de soi, et puis on regarde qui est là, qui est encore là. Voyez, parce que il faut savoir que cette affaire, c'est quand même 3 semaines en France où on parle de ça dans les médias. Que
à un moment donné, où il y avait autre chose à parler.
C'était pendant la campagne présidentielle. Marine Le Pen parle de ça dans ses discours de la campagne présidentielle. Enfin, ça va.
Ouais, mais elle est dans son rôle.
Elle est dans son rôle.
Elle récupère ce qu'elle peut traîner.
Ce que je dis, c'est que ça prend une ampleur assez énorme.
Et vous devenez quoi à ce moment-là?
Moi, je deviens quelqu'un absolument anonyme au bout du monde, parce que je pars à Tokyo à ce moment-là, et c'est très bien de partir loin du bruit. Mais pour en revenir à la fidélité, effectivement, quand on revient à Paris et quand on essaye de reprendre ses esprits, etc., on se rend compte que effectivement, y a des gens qui ont disparu. Là, c'est dur parce qu'on se dit c'était des amis, c'était des gens qui me connaissent et qui savent très bien qui je suis et qui savent très bien que je suis pas ces tweets-là et qui savent très bien le ton que j'utilisais même à cet endroit de Twitter. Et ça, effectivement, c'est des moments qui sont extrêmement durs intimement.
Au bal des faux culs, il y a du monde.
Ça, c'est vous qui le dites.
Bah, j'ai lu votre livre.
Oui, je suis certaines personnes. Oui.
Non, mais attendez, quelqu'un qui forcément est au courant et qui fait un édito et qui dit qu'il n'est pas au courant, c'est quoi?
Oui, oui, bien sûr.
C'est quoi, c'est un faux cul?
Oui, alors là, vous parlez du...
Non, mais par exemple.
Oui, vous parlez du directeur des Inrecuptibles, Pierre Ciankowski. Oui, c'est un exercice compliqué. Parce que, effectivement, voilà, on rigolait sur Twitter. Alors, je dis pas qu'il a vu les tweets les plus graves, évidemment. Mais il savait le ton. Alors, effectivement, quand il a dit qu'il n'était pas au courant, ça a pris une certaine ampleur encore plus parce que, on lui a ressorti les tweets qu'on avait en commun. Mmh. Donc, effectivement, c'est des situations assez particulières, mais qui sont même des situations presque romanesques. Finalement, la lâcheté, ou en tout cas le sentiment comme ça de la fuite, est un sentiment, enfin, je trouve, un thème romanesque très, très beau.
Jamel Debbouze vous envoie un message.
Oui, enfin, Jamel, parce que Jamel, c'est quelqu'un qui comprend le monde, je pense. Il y a quelque chose comme ça où il comprend ce qui se passe, parce qu'il s'intéresse à ce qui se passe. Donc, finalement, les gens qui ont compris cette histoire, c'est les gens qui comprennent l'époque. Alors, effectivement, qui condamnent les tweets, qui condamnent le fait de...
Et là, il faut être clair, hein, voilà.
Oui, bah, parce que c'est important. Mais, en même temps, qui comprennent aussi le jeu un peu mortel. Qui a été le mien.
Et qu'est-ce qu'il vous dit, Debbouze?
Bah, je cite une phrase dans le livre où il dit « Ce n'est pas la fin de ton monde ». Et je trouvais que c'était une phrase...
Je vous ai demandé de le citer parce que je trouvais que la formule était bonne. Parce que comment on sait jamais, voilà, quand on doit se manifester auprès de quelqu'un qui vit quelque chose de... Voilà, quelqu'un qu'on connaissait pas comme ça et qui traverse une tempête, on sait jamais trop comment se manifester.
Oui, et je trouve que cette phrase est juste, et qu'elle est belle, et que effectivement, c'était pas la fin de mon monde. C'était. Voilà.
Bien. Alors, on a eu cas. Alors, votre monde continue, puisque vous allez lire une pièce, c'est vendredi prochain, c'est ça?
Alors, c'est samedi 15 décembre.
Le 15 décembre. Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Les Enfants de la réalité, et il y a tout un groupe de comédiens qu'on a invités avec Badrou pour lire cette pièce qu'on a écrite l'année dernière.
D'accord, la réalité, c'est la télé-réalité?
Non, c'est la réalité, c'est vous et moi, c'est là, maintenant.
Les vrais gens. Et c'est quel théâtre?
C'est à la MC 93 à Bobigny.
Très bien. Alors, on a écouté Carinane, aujourd'hui, on va faire pire, on va écouter Benjamin Biolay. On l'écoute pas beaucoup sur BFM, c'est très France Inter. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très...
Vous devenez comme les autres, en fait.
C'est-à-dire, moi j'ai commencé chez les autres. j'ai commencé chez les autres, vous voyez, donc ne me dites pas ça. Ça, c'est ce que vous dit vos copains quand vous êtes allé à France Inter. Et oui. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps, t'es devenu comme les autres. Vous voyez, il faut réfléchir à ce genre de phrase. Alors, Benjamin Biolay, que j'écoute pas toujours, avec une chanson. Alors, du coup, je l'ai trouvée très belle, cette chanson, d'un album éponyme, comme on dit, donc La Superbe.
C'est ça.
Et c'est une chanson qui vous parle.
C'est une chanson que j'aime énormément. J'ai beaucoup écrit grâce à ça.
Bien. Et on la vous la propose, voilà, sur Beurre FM. Merci, Midi Meta, d'avoir été l'invité du Book Club.
On reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage, d'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire. Singulière, on gagne, on perd la guerre, la superbe. Quelle aventure, quelle aventure. Thank you.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.